Merci. Alors, je pense qu'on vient d'avoir déjà un portrait de ce passé conservateur du Québec. Alors, pour ma part, je vais essayer d'y inscrire les femmes. Alors, je voudrais commencer mon intervention en vous lisant... un extrait d'un texte rédigé par Micheline Dumont et publié dans Le Devoir le 22 février 2010. Alors, le texte s'intitulait « Le foulard et l'égalité ». Depuis quelque temps, dans le tourbillon causé par la querelle sur l'identité québécoise et la prétendue nécessité d'une charte de la laïcité, on ne compte plus les ténors des deux sexes qui viennent proclamer la main sur le cœur que, et Micheline citait les propos, que l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas négociable au Québec, et que cette égalité constitue une valeur fondamentale de la société québécoise. Je crois, poursuivait Micheline, que les femmes des 350 dernières années ne s'en sont pas aperçues. J'avais trouvé ce texte à la fois très amusant et très vrai, et je l'avais trouvé très réconfortant, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'étais très agacée par l'image particulièrement angélique des rapports hommes-femmes véhiculés par nombre de témoins devant la commission Bouchard-Taylor, mais aussi après, dans tous les débats qui ont suivi cette commission, angélisme relayé par les médias sans aucune perspective critique, parce que sans aucune perspective historique, notamment. Et pourtant, il ne faut pas reculer très loin dans l'histoire, mais bon. Et donc, je voudrais aujourd'hui peut-être profiter de cette tribune pour rappeler quelques faits marquants de l'histoire des femmes du Québec au 20e siècle, qui confirment jusqu'à plus soif que celle-ci a été profondément marquée par le conservatisme, de droite comme de gauche d'ailleurs. Ce faisant, je voudrais aussi montrer que la question nationale a été très souvent à la base de l'attitude carrément rétrograde de cette société québécoise à l'égard des femmes, et que le nationalisme, dans sa version conservatrice, continue aujourd'hui comme hier, de moduler les discours, y compris les discours historiques, sur la question des rapports hommes-femmes. Et à la toute fin, je vais revenir sur cette question de l'égalité, de cette revendication de l'égalité qu'on a entendue dans la foulée de la commission Bouchard-Taylor. La lutte pour le suffrage féminin est sans doute l'événement tout indiqué pour commencer mon très bref survol. En fait, j'ai le temps que de donner que quelques anecdotes. Hein. On se souviendra que les Québécoises, tout comme les Françaises et les Belges d'ailleurs, ont mis plus de temps que les autres occidentales à obtenir ce droit à l'échelle de la province, puisqu'elles votaient par ailleurs au niveau fédéral depuis 1918. Donc, au Canada, c'est à partir de 1918 que la plupart, en fait, la très grande majorité des femmes peuvent voter, sauf les autochtones, les femmes autochtones vivant dans les réserves, et aussi les Asiatiques, ce qu'on oublie d'ailleurs trop souvent de spécifier. Henri Bourassa, fondateur du Devoir, nationaliste conservateur s'il en fut, avait alors exprimé toute l'horreur que cette mesure fédérale lui inspirait dans une célèbre tirade que je crois utile de citer. Pas juste pour l'anecdote, mais parce qu'elle m'apparaît fondamentale. Je vous dirai pourquoi après. Le Parlement, disait Bourassa, a ouvert la porte à l'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive. Alors évidemment, c'était le Parlement fédéral dont il était question. Sous sa forme la plus nocive, la femme électeur, qui engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphe, la femme souteneur d'élection, puis la femme députée, la femme sénateur, la femme avocat. Pour tout dire en un mot, la femme-homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la femme-mère et la femme-femme. La principale fonction de la femme est et restera, quoi que disent ou quoi que fassent ou ne fassent pas les suffragettes, la maternité, qui fait véritablement de la femme l'égale de l'homme et, à mes égards, sa supérieure. Les propos de Bourassa nous font aujourd'hui bien sourire, c'est évident. Mais malgré leur dimension qu'on juge aujourd'hui outrancière, on ne doit pas oublier l'essentiel. C'est au nom de la vocation maternelle des femmes qu'ils s'élevaient contre le suffrage féminin. Toute activité qui semblait vouloir les écarter de cette mission, lui apparaissant comme une menace inacceptable et intolérable pour l'avenir de la race, comme on le disait à l'époque. Le contexte du début du siècle, marqué par la montée des tensions ethniques entre francophones et anglophones, alimentait alors un nationalisme défensif, et qu'on pourrait même qualifier d'ultra-conservateur, qui reposait sur le triptyque de la langue, de la foi et de la vocation rurale. Et ça, on l'a souvent dit. Mais un nationaliste qui avait aussi, et peut-être surtout pour fondement, le maintien de la famille patriarcale nombreuse. Et ça, je pense que c'est un élément sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, en dehors, bien sûr, des cadres de l'histoire des femmes. La même année, donc en 1918, dans un discours demeuré lui aussi célèbre, le père Louis Lalande demandait d'ailleurs aux femmes du Québec de poursuivre le combat pour la survie nationale par la revanche des berceaux, une expression qui était aussi demeurée célèbre dans l'histoire, alors qu'à la même époque, Lionel Groulx proclamait que le capital humain représentait le plus précieux capital des Canadiens français. En d'autres termes, dans l'esprit des nationalistes traditionnalistes ou conservateurs du début du siècle, les femmes constituaient le fer de lance de la lutte nationale, non seulement en raison de leur capacité reproductrice, mais aussi parce qu'elles transmettaient la culture et les traditions aux générations suivantes. Dans ces conditions, il ne pouvait être question de leur ouvrir la voie vers d'autres horizons. Instrumentalisées au nom de la nation, les femmes, les Canadiennes françaises, et devaient être maintenues dans le rôle séculaire qu'elles avaient toujours joué, la maternité, la sainte et féconde maternité, comme le précisait Bourassa, représentait l'unique fonction qu'elles étaient légitimement appelées à exercer. En 1940, quand le gouvernement Godbout a finalement adopté la loi accordant le droit de vote aux femmes, le cardinal Villeneuve reprenait d'ailleurs le même refrain que Bourassa quand il affirmait que les évêques du Québec étaient encore opposés au suffrage féminin parce que, et je cite, « son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme ». 20 ans de lutte n'avaient donc pas fait bouger l'épiscopat, même si la participation des femmes aux élections fédérales n'avait pas provoqué la cascade de catastrophes appréhendées par Bourassa. Selon le cardinal Villeneuve, le suffrage féminin était aussi à redouter parce qu'il allait, et je cite, « à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale ». Par là, il suggérait que des femmes pourraient voter différemment de leur mari, brisant ainsi la cohésion du couple et défiant même l'autorité de la famille, ce qui, aux yeux des nationalistes et du clergé, était totalement inacceptable. La commission Dorion, mandatée au début des années 30 pour se pencher sur le statut juridique des femmes mariées à la demande des groupes féministes, avait pourtant fermé la porte à tout changement d'importance à cet égard. Estimant que le Code civil constituait, et je cite, le fond de notre âme nationale, ce qui revenait à dire qu'il était pratiquement intouchable, les commissaires dénonçaient, je cite, « l'absurdité de la théorie dite des droits égaux pour tous », de manière à mieux justifier le maintien de tous les articles du Code, ou presque tous, qui consacraient le mari comme le chef incontesté de la famille et l'épouse comme sa subordonnée. L'incapacité juridique des femmes mariées, traitées aux yeux de la loi comme des mineurs ou des aliénés, se maintiendra donc jusque dans les années 60, alors que les premières brèches dans cet édifice législatif seront finalement pratiquées. En fait, pour être tout à fait juste, je devrais dire que l'article stipulant que l'épouse ne pouvant demander la séparation de son mari pour cause d'adultère, que si celui-ci entretenait sa concubine dans la résidence familiale, avait quand même été aboli en 1954. La commission Doriot n'avait pas jugé bon de le faire au début des années 30, sous prétexte, et je la cite, que la blessure faite au cœur de l'épouse n'est pas généralement aussi vive que celle dont souffre le mari trompé par sa femme. Tout comme l'opposition au suffrage féminin, la volonté de préserver la puissance paternelle au sein de la famille était directement liée au désir de maintenir les femmes, encore une fois, dans leur rôle maternel. Libérer les femmes de la puissance maritale, les rendre aptes à gérer leurs propres affaires, comme c'était déjà le cas dans la plupart des autres provinces canadiennes et depuis le 19e siècle, c'était aux yeux des nationalistes, dont les membres de la Commission Doriot faisaient évidemment partie, courir le risque de les voir refuser d'élever les enfants dont la patrie avait grandement besoin pour assurer sa pérennité. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les nationalistes eux-mêmes qui l'ont dit à l'époque. C'est aussi pour préserver la suprématie masculine que les ténors nationalistes se sont opposés à l'octroi des allocations familiales, une mesure fédérale adoptée à la fin de la Deuxième Guerre, aux mères. Le caractère quasi sacré associé à la fonction de mère de famille dans le discours nationaliste n'allait donc pas jusqu'à leur laisser même une parcelle d'autonomie économique, surtout quand cette parcelle venait du fédéral, on s'entend. Bien au contraire, parce qu'il s'agissait de préserver intacte la famille dite traditionnelle, fondement de l'identité canadienne-française, il ne pouvait être question de modifier le rapport de force à l'intérieur du couple. Cette histoire des allocations familiales est assez bien connue et c'est finalement plutôt bien terminée, puisque grâce à une lutte entreprise par Thérèse Casgrain, les chèques d'allocations familiales ont finalement été adressés aux mères de famille au Québec comme dans les autres provinces canadiennes. Il n'en demeure pas moins que le tollé suscité par cette mesure constitue un autre témoignage de la volonté des nationalistes conservateurs de maintenir le statu quo en ce qui concerne les rapports hommes-femmes, et ce, bien avant dans le 20e siècle. On n'est plus au 19e siècle, on est rendu en 1945. L'opposition viscérale des nationalistes conservateurs face à toute intervention de l'État s'est aussi exprimée dans d'autres domaines qui ont moins fait la manchette à l'époque, mais qui sont, à mon avis, tout aussi significatifs. Ainsi, à Montréal, vers la fin des années 40, les nationalistes luttaient toujours afin de contrer la municipalisation des cliniques pour nourrissons qu'ils avaient fondées dans les années 10 et qu'on appelait les gouttes de lait, alors même que ces gouttes de lait étaient jugées moins efficaces pour combattre la mortalité infantile et que les cliniques municipales, et que les bébés canadiens-français étaient particulièrement susceptibles de mourir durant leurs premières années de vie. Encore en 1947, la revue Relations, qu'on présentait dans Le Devoir la semaine dernière comme une revue progressiste, défendait les gouttes de lait privées sous prétexte que les mères de famille pourraient y apprendre là les éléments d'un enseignement chrétien, qu'elles pourraient être exposées à un enseignement chrétien, en particulier en ce qui concerne les préceptes de l'Église au sujet de la contraception, plutôt de l'interdiction, évidemment, de la contraception. Alors, on pourrait continuer ici, je pourrais vous donner, bon, de multiples exemples, mais comme il me reste 2 minutes, me dit-on, je voudrais quand même arriver à la période contemporaine pour montrer aussi que le conservatisme à l'égard des femmes s'est exprimé à gauche. Des travaux récents ont montré, par exemple, que la gauche nationaliste a été bien peu, des années 60 notamment, a été bien peu préoccupée par l'égalité des femmes, l'égalité des sexes, et qu'elle a même accusé les femmes d'être à la source de l'oppression du peuple québécois, ou plus exactement de sa composante masculine. Il y a des études qui ont été faites, entre autres, sur la revue Parti pris, et qui montrent que pour les Parti pris, en sacralisant le rôle de la mère, l'Église avait favorisé la domination des femmes sur les hommes dans la famille, notre fameux matriarcat, une anomalie que seule l'indépendance pouvait corriger. Dans plusieurs de leurs textes, le projet souverainiste était donc présenté comme une entreprise de virilisation de la nation qui exigeait le viol ou même le meurtre de la femme dominatrice pour s'accomplir. De manière moins dramatique, on va se souvenir que depuis les années 60, beaucoup de ténors nationalistes ont demandé que les femmes fassent plus d'enfants parce qu'au Québec, on est en danger, n'est-ce pas, de disparaître. Alors, pour conclure, De nos jours, les Québécoises bénéficient des lois qui assurent leur égalité juridique avec les hommes. Elles sont présentes dans les universités, dans les professions. Elles ont obtenu des garderies, elles ont obtenu des congés parentaux. Enfin, on ne peut pas nier, autrement dit, qu'il y a eu, évidemment, qu'on a progressé, si on veut. Et il faut dire aussi que le Parti québécois a souvent été à l'origine de ces lois-là. En tout cas, c'est lui qui les a fait adopter. Mais le féminisme est aussi sur la brèche, comme le monde les attaques dont il fait l'objet depuis une vingtaine d'années, notamment de la part du mouvement masculiniste et de certains de ses admirateurs, qui estiment que les femmes sont à la source de tous les problèmes que vivent les hommes, du décrochage scolaire au suicide, en passant par les divorces. Dans leur esprit, les avancées des femmes se seraient réalisées au détriment des hommes, et il serait plus que temps de renverser la vapeur. Par ailleurs, chez certains jeunes historiens, on constate aussi depuis quelques années une volonté de revenir à une histoire qui remettrait à l'honneur les traditions du passé, notamment le passé religieux qui aurait été malmené par ceux que l'on appelle les modernistes. Alors, je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que je pense que Martin va vous parler de ça, mais je voudrais quand même souligner que la revalorisation de l'héritage canadien-français à laquelle ces historiens aspirent et qu'ils cherchent à présenter comme une source d'inspiration aussi pour le nationalisme. Cette revalorisation de l'héritage canadien-français, dis-je donc, ne risque pas d'être très critique à l'égard du traitement que la société québécoise a réservé aux femmes par le passé. On peut aussi penser, quand on regarde les travaux des historiens des dernières décennies, on peut aussi penser à ces thèses sur la modernité du Québec ou l'américanité du Québec, qui s'est aussi montrée assez peu sensible à la question des femmes, parce que très souvent, ces thèses-là ne correspondent pas du tout à l'expérience historique féminine. Alors, pour terminer vraiment cette fois-ci, Magda, je dirais pour conclure qu'il m'apparaît difficile d'affirmer que l'égalité homme-femme a constitué une valeur fondamentale de la société québécoise. Si elle l'est désormais, c'est depuis peu, et elle est encore fortement contestée. En réalité, le cri du cœur lancé par les témoins qui ont comparu devant la commission Bouchard-Taylor m'apparaît plutôt comme une manifestation d'un réflexe identitaire. Devant la crainte de voir la nation être submergée par l'autre, avec un majuscule, l'égalité des hommes et des femmes est commodément apparue comme une marque de distinction à revendiquer. Mais il s'agit d'une revendication qui s'alimente à une nouvelle version de nationalisme conservateur qui cherche aujourd'hui comme hier à maintenir intactes les caractéristiques de la nation telles qu'ils se les imaginent. Merci.